Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Doa Besancenot, la directrice de la communication corporate et de la RSE du groupe Allianz, le premier assureur européen, et pas uniquement de la communication corporate, je crois, Marie.
Oui, bonjour Alice, en effet.
C'est ça, c'est les deux maintenant que tu fais, c'est corporate et externe.
C'est les deux, c'est même les trois en fait.
Il y a la direction
de la communication, de la marque et de la RSE.
Ah bah super, bah comme ça, je pense que tu vas tout pouvoir me raconter sur le sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de me parler des engagements du groupe, est-ce qu'on peut un peu parler du secteur ? Comment va le secteur ?
Comment va le secteur de l'assurance ?
Ouais, comment va le secteur
de la finance en général ? On peut dire que c'est un secteur qui est en pleine ébullition, en pleine transformation, et qui a vraiment pris le sujet de la transformation des modes de consommation et de l'énergie surtout. Et je dis ça quand je pense au secteur, je pense même pas au secteur en France, je pense au niveau européen en fait. Parce que quand on voit tout ce qui arrive là, dans l'année...
Il y a des réglementations.
C'est exactement ça. On a trois directives qui arrivent européennes là dans les quelques mois qui viennent. Une justement qui révise les standards de reporting sur tout ce qui est sustainable development. Un deuxième qui est sur les green bonds européens. Et le troisième sur un éco-label européen. Donc on voit que ça bouge.
Ouais, mais en même temps c'est bon signe. J'imagine aussi, quand on est une assurance, que tout ce qui est réchauffement climatique et donc impact sur les concitoyens, ça a un effet. On doit réduire, on doit aussi aller dans ce sens-là, même pour vous.
C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un ADN et un métier qui, par essence, est déjà branché RSE, puisque nous, notre objectif, c'est de prévenir les risques, de prévenir les personnes qui sont susceptibles d'être confrontées à ces risques et de les limiter pour pouvoir les maîtriser, parce que c'est autant de sinistres, en effet, qu'on n'a pas ensuite à indemniser. Et puis, on a vraiment, dans notre ADN, cette mission de prévention collective.
Et donc, ça s'est accéléré ces derniers temps. Toi, tu as pris ton poste il y a combien d'années ?
Il y a 7 ans et demi.
Ah oui ! Ah, mais c'est génial, parce que comme ça, tu as pu voir vraiment l'évolution.
C'est vrai. Et justement, lorsqu'on parle de provision, comment on fait pour anticiper et pour mesurer ce risque climatique et la réalité du réchauffement climatique ? Eh bien, les assureurs sont bien placés, puisqu'ils sont obligés de provisionner les sommes qu'il faudra pour couvrir la multiplication des risques. Donc nous, on le mesure très concrètement. Et en 10 ans, on sait qu'on a doublé ces provisions.
Comment tu fais pour mesurer ? C'est indiscret, on a le droit de savoir.
Bien sûr, on voit ce qu'on règle en fait pour les sinistres.
Mais comment tu prévois sur l'année qui suit en fait ?
Parce que ça
dégénère un peu le climat, etc.
Ce sont des probabilités, mais tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'on observe les phénomènes climatiques. Donc nous, la météo, ça nous intéresse au plus haut point.
Oui.
Typiquement, la multiplication des épisodes méditerranéens, ce qu'on appelle méditerranéens, qu'on a vu ces dernières années avec des glissements de terrain, avec vraiment des pluies diluviennes auxquelles le sol n'est pas préparé et qui conduisent des maisons à s'effondrer. Alors ça, nous, on a besoin de les anticiper parce qu'il faut prévoir, provisionner.
Et puis quand tu sais qu'il y aura dans les prochaines années, d'ici 2030, je suis désolée, c'est pas de l'éco-anxiété, mais qu'on va avoir des zones plus du tout habitables, même pour vous, ça c'est hyper important.
Mais tu as complètement raison. Et c'est là qu'en fait, on travaille avec les collectivités locales, parce que les plans locaux d'urbanisme, ça sert aussi à ça, en fait. À savoir les endroits où on peut, sans risque, s'installer, et les autres où on se dit, c'est trop près des côtes, ou alors c'est une zone à risque pour telle et telle raison.
Donc, c'est pour ça qu'il faut s'engager. Et donc, si on rentre dans le concret des engagements pris, on va dire, ces 2 dernières années, parce que ça a dû clairement s'accélérer, qu'a fait le groupe Allianz ? Qu'est-ce que toi, tu as initié aussi, peut-être ?
Alors, le groupe Allianz, donc, c'est un groupe international. Hein, c'est un groupe, premier groupe d'assurance mondiale qui est basé en Allemagne. Donc, les grandes décisions prises au niveau groupe, les plus impactantes, c'est celles qui concernent les investissements. Alors, ça paraît très technique comme ça, mais en réalité, lorsqu'on est assureur, on est aussi investisseur par nature, puisque, en fait, lorsque tu me payes ta prime, ta cotisation pour l'assurance, avant qu'il t'arrive quoi que ce soit, tu m'as donné l'argent avant qu'il t'arrive quelque chose. Donc, c'est complètement inverse, un cycle inversé par rapport à la consommation, tes biens de consommation habituels. Ce que ça signifie, c'est que ces primes, on les investit. Et donc, on les investit si possible, dans des entreprises qui, elles, préparent l'avenir, en fait.
Mais donc nous, est-ce qu'on peut choisir d'investir ou c'est vous qui pilotez ça?
Ah ben justement, ça c'est le rôle, du coup, des conseillers et de nous, de bien vous informer sur dans quoi vous investissez lorsque vous placez votre argent chez nous. Et c'est le rôle de tous ces rapports RSE, en fait, de raconter l'histoire de cette prime d'assurance. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on la rend utile? Comment est-ce qu'on lui permet d'avoir un impact et de contribuer à ce qu'on essaye de faire de toutes nos forces, qui est contribuer à la transition énergétique?
Tu vois, récemment, j'ai eu Grégoire Chauvière-Le Drian, directeur du bureau de Paris de la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, qui me disait qu'ils avaient renoncé à financer tout ce qui était énergie fossile. Est-ce que c'est le type d'engagement que peut prendre aussi un groupe comme Allianz?
C'est exactement ce qui se décide au niveau mondial. Exactement. Donc nous, on a pris des engagements très très forts, le groupe Allianz, sur le charbon, par exemple, avec des objectifs de décarbonation des portefeuilles. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on n'investit plus dans les entreprises qui réalisent plus de 30% de leur chiffre d'affaires entièrement sur le charbon. Et ce qui est assez original dans la posture du groupe Allianz, c'est qu'on a décidé récemment d'aligner cette politique d'investissement avec la politique d'assurance. Ça veut dire que de même qu'on n'investit plus dans ces entreprises, on ne va plus les assurer non plus. Et les questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on va encore plus loin. Donc, par exemple, sur le charbon, on avait décidé que cette politique s'appliquait aux entreprises qui s'occupent de l'extraction du charbon. Et maintenant, on étend ça à d'autres pratiques autour du charbon. Et puis après, on réfléchit de la même manière autour d'autres hydrocarbures. Mais ça se fait comme ça par progression et par décision politique.
C'est hyper intéressant. Et est-ce qu'il y a un accompagnement de ces entreprises ou est-ce qu'en fait, on leur tourne le dos simplement?
Non, alors c'est là où, et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, on touche à l'équilibre nécessaire entre le S et le E de la RSE.
C'est tout l'ADN du podcast, c'est pour ça ma question.
Non, mais ça, c'est vraiment très important. Je dirais que pour résumer l'approche de ces grandes entreprises d'assurance, lorsqu'on investit dans une entreprise, quel est l'impact qu'on peut avoir? Eh bien, on peut soit investir directement, on peut soit désinvestir brutalement, ou on peut aussi accompagner. C'est-à-dire qu'une entreprise dans laquelle on est investi, on a un système de scoring interne sur le E, le S et le G, donc tous les volets de la RSE, et on a des seuils de tolérance qui
le
nous sont
G,
propres.
Le G, c'est
La gouvernance.
Gouvernance.
Qui est très important aussi.
Tu vois,
parce
mais moi,
que
je l'oublie.
Mais c'est un vrai indicateur de stabilité de l'entreprise sur le long terme, donc c'est très intéressant pour les investisseurs aussi. Donc très clairement, nous on a donc un système de scoring, donc d'évaluation interne, qui nous permet de dire, ah là il y a un petit drapeau rouge sur soit le volet environnemental, soit le volet social, soit la gouvernance de l'entreprise, qui déclenche un suivi, un accompagnement très personnalisé, où on entre dans une trajectoire d'accompagnement. Donc concrètement, ça veut dire qu'on dit à l'entreprise, nous on aime bien ce que tu fais, mais sur tel et tel volet, on pense qu'il faut que tu nous donnes de nouvelles garanties. Donc si c'est le G, comme tu l'évoques, ok, bon ben alors peut-être que la gouvernance elle est déséquilibrée, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter les risques d'une instabilité de l'entreprise? Et donc il y a cet accompagnement qui va en général avec une durée, donc on dit ben voilà, d'ici 18 mois, d'ici 2 ans il faut que ce soit amélioré sur ce volet-là pour qu'on continue à investir.
Et sinon on désinvestit.
Sinon, on désinvestit, absolument.
Ah, mais c'est génial. Moi, c'est exactement une dynamique que j'encourage, parce que le but, c'est de les faire changer, ces entreprises-là. Il n'y a que comme ça, il n'y a que en leur tendant la main qu'on va pouvoir les aider.
En fait, c'est vraiment la mission qu'on a lorsqu'on a ce rôle qui est assez privilégié de financer l'économie, parce qu'en un sens, on a un pouvoir incroyable de flécher vraiment les grandes orientations de l'économie de demain. Donc, on le prend très au sérieux, ce rôle-là, et c'est pour ça qu'on se dit, bon, ben, on applique un filtre qui nous est propre pour se dire, on peut sans hésiter continuer à investir là-dedans, alors que là-dedans, eh ben, ce n'est pas cohérent par rapport à notre propre politique interne. Donc, on essaye de tirer l'ensemble du marché vers le haut. Donc, on fait ça avec les entreprises avec lesquelles on travaille, mais on fait ça aussi avec les prestataires, avec les partenaires. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec un rôle de leadership, en fait.
Puis moi, en plus, je t'avais connue sur les engagements sociaux plutôt du groupe. Et est-ce que, avant de peut-être passer aux engagements sociaux, justement, tu aurais d'autres choses à ajouter sur les engagements environnementaux du groupe Allianz, peut-être la trajectoire que le groupe va prendre ces prochaines années?
Ce qui est certain, c'est que, et ce qui est assez excitant dans la période actuelle, c'est qu'avec la réglementation européenne que j'évoquais, qui n'arrête pas de bouger, on sait que ça sera de plus en plus exigeant. Ce qui manque aujourd'hui, en fait, c'est un benchmark sur les produits d'assurance. Parce que sur le volet investisseur, finalement, la finance verte, avec la taxonomie européenne, etc., on sait se comparer les uns les autres. Donc, on a des reportings qui nous rendent relativement transparents les uns pour les autres. Et donc, en fait, lisibles pour le client, lisibles pour les ONG, lisibles pour l'ensemble des parties prenantes. contraintes politiques, internationales, etc. En revanche, sur les produits d'assurance, c'est plus difficile parce que qu'est-ce qui fait que ton assurance auto ou ton assurance habitation, elle est plus responsable qu'une autre? Et c'est là où on a une grande marge de manœuvre parce qu'on peut inventer ça aujourd'hui. Et on fait beaucoup appel à nos collaborateurs d'ailleurs en leur disant qu'est-ce que vous avez comme bonnes idées, vous? Et donc, par exemple, sur l'auto, on peut se dire, pour rendre ce produit d'assurance auto plus responsable, ça peut être un volet prévention, ou alors un volet sur l'éco-conduite, ou alors un volet sur le recyclage,
sur
les pièces de réemploi,
peut-être sur le fait que
ou alors, exactement, tirer vers le haut ce marché-là en disant, on fait des offres à des tarifs ultra préférentiels si jamais, toi, consommateur, tu t'engages à acheter une voiture électrique ou hybride.
Donc, qui permettrait aussi aux acquéreurs de pouvoir se payer ce type de véhicule aujourd'hui qui est encore plus cher et qui reste un souci pour pouvoir rouler en électrique.
Ça, c'est typique d'une contribution que l'assureur peut avoir parce que ce qui est assez, assez intéressant dans le rôle de l'assureur aussi, c'est qu'en fait, c'est le tiers de confiance nécessaire pour que se développent toutes les innovations. Donc, quelque chose de nouveau pour que ça puisse être généralisé. Il faut que l'assureur ait consenti à l'assurer, donc que ce soit assurable à des tarifs acceptables, ou alors on peut rendre les tarifs volontairement très très privilégiés pour que l'usage se développe.
Vous avez un pouvoir dingue entre les mains.
C'est ça ce qui fait que l'assurance est un métier très sociétal et qu'en fait on a un dialogue permanent avec les startups qui est très sympa parce que lorsqu'il y a des innovations, alors nous on est à fond sur les nouvelles mobilités.
Mais c'est bien, c'est un vrai sujet, On n'arrive pas à trouver l'équilibre entre les trottinettes électriques, la flotte, la gestion de flotte, les machins.
Exactement. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler un peu avec tout le monde, voir comment les business se développent, de les accompagner et ensuite de les proposer, de les aider à être généralisés si jamais on a l'impression que ça correspond vraiment, d'une part, aux nouveaux usages et que ça peut marcher, et d'autre part, à réduire l'empreinte carbone de tout le monde.
Il n'y a pas de neutralité carbone à horizon?
Si
quand même, scope 1, scope 2, scope 3.
Alors, on est en effet, on fait partie. Alors là aussi, ça devient encore un petit peu technique.
C'est pour ça que je pose
des grandes alliances internationales.
D'accord.
Donc, on est membre fondateur même de la grande alliance qui s'appelle la Net Zero Asset Owner Alliance. Voilà, c'est très technique, mais on est membre fondateur. Aujourd'hui, on a été rejoint par une trentaine de grands investisseurs internationaux. Et en effet, on s'est donné pour objectif la neutralité carbone à 2050, mais surtout, on a des objectifs intermédiaires très très rapprochés qu'on s'est donné pour être en mesure d'arriver à cette date, voire même un peu plus tôt.
Ce serait top.
Après, ça pose plein de questions, évidemment, sur la neutralité, parce que c'était le grand sujet de la COP26 cette année.
Mais ça reste une question. Au début, je la posais systématiquement, cette question. Et puis, en fait, à la fin, on ne sait plus vraiment répondre parce que le calcul est tellement compliqué et que, en fait, tout dépend de toutes les choses qu'on met en place, qu'on recalcule. Il y a beaucoup de choses qu'on recalcule, finalement, et on se rend compte que c'était pas un gain, c'est des erreurs, mais en même temps, pour avancer, parfois, il faut faire aussi des erreurs. Enfin,
en fait, le sujet de la neutralité, c'est un bel objectif et c'est très bien qu'on puisse tous s'accorder sur celui-là, mais c'est vrai que maintenant, c'est le calcul de cette neutralité, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut réduire les émissions, etc. Mais en dernier ressort, on peut aussi compenser, tout simplement, en achetant des crédits carbone. Donc ça,
c'est exactement ça. Ouais. Ça, maintenant, on arrête. Pareil, ceux qui utilisaient que le scope 1, scope 2, enfin, en même temps, si tu ne prends pas le scope 3, c'est facile d'être neutre pour beaucoup. Donc, ça, c'est clair que c'est compliqué. C'est un sujet qui reste compliqué. Je pense que quand on sera tous beaucoup plus clairs là-dessus, ce sera une de mes premières questions.
Et en même temps, on apprend à le faire. Et donc, oui, on est sur scope 1, scope 2, et on est aussi sur une partie de scope 3. Mais c'est vrai qu'on est toujours en train d'apprendre à le faire.
Bien sûr, c'est compliqué.
Parce que c'est des nouveaux outils et une nouvelle expertise. Mais en tout cas, l'ambition d'Alliance, c'est vraiment d'être leader sur le sujet. Donc, on a des experts, en fait, qui font vraiment partie des groupes de préparation des nouvelles réglementations européennes, donc au niveau européen, et au niveau ONU aussi, depuis très longtemps, puisqu'il y a c'est des groupes de travail qui rassemblent une bonne partie du marché. Par exemple, sous l'ONU, ça s'appelle les principes pour une assurance responsable, et il y a un autre groupe qui s'appelle les principes d'investissement responsable. On est membre depuis 2007 et 2014, respectivement. Ce qui veut dire qu'il y a des gens chez Alliance dont le travail est vraiment de contribuer à ces réflexions-là, de produire des propositions dont l'ensemble du marché pourrait se saisir à l'avenir si ça devient des réglementations.
Et sur le social, est-ce que tu as, parce que vous faites beaucoup, beaucoup de choses, mais s'il y a un grand axe que tu aimerais valoriser, ce serait lequel?
Alors, ce qui est intéressant avec les produits d'assurance, c'est que Il y en a sur beaucoup de sujets différents, mais il y a notamment la santé, donc ce qui est quand même un vrai sujet sociétal.
Ça me parle bien en ce moment.
Voilà, on sort de quand
même.
Je
magnétise les soucis de santé. Je ne sais pas ce qui se passe.
Non, mais ça.
Mais c'est la roue tourne. Tout ira bien.
J'espère que ça ira mieux. Mais c'est vrai qu'on sort de 2 ans de Covid, donc le sujet santé, il nous concerne. Et c'est un des grands engagements d'Alliance. Et donc, de façon assez classique, on avait depuis longtemps un engagement qui est plutôt d'ordre philanthropique, si je peux dire, puisqu'on a une fondation qui est dédiée à la recherche médicale. Et qui consacre beaucoup de projets qui sont très connexes avec nos activités. Donc, par exemple, le bien vieillir, la longévité de la vie, comment on fait pour mieux vieillir, et d'autres sujets qui concernent toutes les premières causes de décès, notamment cardiaques, etc. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup à ce que ça signifie l'inclusion, pour que nos produits soient vraiment accessibles au plus grand nombre de personnes.
Parce que quand on le voit, moi j'ai vu une carte récemment qui montrait que la partie la plus riche subissait le moins le réchauffement climatique, avait le moins de problèmes de santé, et c'est toujours comme ça en fait. Il y a vraiment des disparités sociales incroyables. Et donc l'assurance a clairement un rôle à jouer là-dedans.
Alors ça c'est un autre sujet, mais auquel on réfléchit en effet, qui est comment on fait pour s'assurer qu'on tarifie au juste prix. Donc c'est vraiment le fait que le produit soit, j'allais dire fair, mais le fair product, quoi, soit juste. Et ça, ça rejoint la question de l'éthique. Et ça, ce que ça signifie, c'est qu'en effet, en interne, on est des groupes de personnes, dont je fais partie, qui réfléchissent à bien concilier les débats qu'on voit monter dans la société. Par exemple, est-ce que c'est juste qu'une personne âgée soit tarifée comme ci, comme ça, qu'un jeune soit tarifé comme ci, comme ça? Et est-ce que c'est juste par rapport à sa manière de conduire, par rapport au risque réel encouru, etc. Donc là, on tombe vraiment sur des discussions éthiques
Viennent,
oui, parce qu'elles viennent rencontrer des méthodes de travail qui sont techniques. Puisque...
Non, mais là, c'est vrai que c'est hyper touchy comme point. C'est-à-dire jusqu'où on va, en fait.
Exactement.
Dans l'étude, quoi.
Exactement. Et c'est vrai que ça vient rencontrer des méthodologies qui sont au cœur du métier de l'assurance, qui s'appelle la mutualisation. Parce que c'est ça la grande vocation d'assurance, en fait. C'est de mutualiser les primes et les risques pour que le jour où toi, il t'arrive quelque chose et moi, il ne m'est rien arrivé, ma prime serve à couvrir ce qui t'est arrivé à toi. Et c'est le grand principe de l'assurance.
C'est la solidarité.
Mais c'est une forme de solidarité, cette mutualisation. Et c'est là où ça devient très difficile, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un désir de tarifs très, très personnalisés.
Chacun est très... En fait, on est dans une société très individualiste, quand même.
C'est vrai, mais on est obligé de le prendre en compte, parce qu'on vit dans ce monde-là. Et donc, comment est-ce qu'on continue à proposer une mutualisation pour couvrir le plus grand nombre de personnes, tout en proposant à chacun une tarification qui lui paraisse juste?
C'est hyper compliqué. Quand tu auras la solution, tu me diras. Non, mais c'est passionnant. Est-ce que tu auras encore envie de me raconter quelques engagements, quelque chose qui pourrait parler à nos auditeurs ?
Sur l'environnement ou sur le...
Ce que tu veux, parce que l'environnement, on a un petit peu couvert. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. Bon, mais on est RSE, donc on parle aussi du social. Mais peut-être sur peut-être que les gens se demandent comment on peut faire...
Comment on peut avancer plus vite.
Ouais.
En fait, pour l'ensemble des entreprises, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on se dit, quand on lit les rapports RSE ou même les rapports climat, on se dit, tout est là, la philosophie est bien déroulée, les PDG savent exactement ce qu'il faut dire. En revanche, est-ce que cette ambition de l'entreprise, elle percole vraiment jusqu'au bout de l'entreprise? Est-ce que les personnes qui sont en contact avec le client, ils savent raconter l'histoire? Et si jamais un client...
Est-ce qu'ils y croient?
Est-ce qu'ils y croient? Voilà. Est-ce qu'ils sont informés? Si un client arrive dans une agence et qui demande un produit d'assurance vert, est-ce que la personne qui est en face, elle sait l'orienter, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille énormément et c'est vraiment un enjeu pour tout le secteur. Ensuite, on a...
C'est vos meilleurs ambassadeurs.
C'est nos meilleurs ambassadeurs et c'est pour ça qu'on a... on a 2500 points de vente en France, c'est incroyable. Et c'est là où on rejoint le S de la RSE, c'est qu'on a un ancrage territorial qui est vraiment gigantesque. On adore dire que sur la quasi-totalité du territoire, sur 97% du territoire, on est à moins de 20 minutes de route de chez un agent. Ça veut dire qu'on a vraiment...
Donc à pied, c'est faisable, on part en rando voir son agent, hein, moi j'y vais.
En vélo,
en vélo,
voilà.
C'est ça.
Exactement. Non, mais ça veut dire qu'on a les moyens de se faire conseiller, en fait.
Facilement.
Et du coup, les agents peuvent être engagés très, très, très directement dans des co-constructions, parfois, de couverture d'assurance qui correspondent à un business qui est particulièrement engagé localement et qui peuvent comprendre très bien, puisqu'eux aussi, ils vivent sur le terrain. C'est
puis
aussi
ça redonne
des
du sens aussi à leur métier. Aujourd'hui,
exactement.
On a tous besoin de sens, donc ça permet aussi peut-être de redonner du sens à leur métier.
Exactement. Donc ça, on y tient beaucoup. Nos agents sont ultra embarqués. Et on leur a même proposé une labellisation des agences les plus engagées qu'on a construite avec l'AFNOR.
Top, ça.
Ouais. Donc, c'est un label voilà, d'agents engagés. Donc, on a déjà une centaine qui sont embarqués. Et ça, c'est vraiment chouette parce que rien ne remplace cette motivation personnelle qui permet d'apporter des réponses aux clients avant même qu'ils en posent, quoi.
Et c'est quoi alors tes plus grosses limites aujourd'hui, ce qui fait les plus gros obstacles que tu rencontres au quotidien ?
Les plus gros obstacles, je dirais, c'est la maturité sur le volet S, peut-être, de la RSE.
Ah oui.
Comment on fait pour...
Aujourd'hui, en fait, tu penses que le E est tellement au centre des préoccupations que c'est, entre guillemets, une nécessité, mais que...
Enfin, en fait, il est plus avancé, le E, ouais. Parce que mesurer l'empreinte carbone, mesurer les différentes consommations...
Puis il y a plein de nouvelles startups de la green tech qui émergent. Alors
en fait,
que
fixer
S...
des trajectoires et les respecter, on arrive à le faire maintenant, en fait. On arrive à les piloter. Le plus difficile, c'est de piloter de la même façon les indicateurs S, qui sont beaucoup plus de l'ordre du ressenti, des verbatims, mais on le voit bien, en fait. On travaille avec beaucoup d'agences qui nous proposent des notations, des scorings, mais ça, c'est difficile de quantifier le bien-être. C'est difficile de...
C'est tellement individuel, en fait.
Mais voilà,
c'est
ça.
Vrai. C'est tellement compliqué.
Alors, on a des grandes lignes rouges, si ouais. Je peux dire, des sujets sur lesquels on veut être, évidemment, mixité, l'égalité salariale.
Diversité,
voilà.
Inclusion, oui, le pilier, mais c'est vrai que... Ouais. Et puis même, d'incentiver, parce que faut... Quand on parle aussi de business, on parle de ROI. On sait aujourd'hui que le green, au-delà d'être une nécessité, c'est aussi l'avenir du business. On va tous, enfin, toutes les entreprises doivent y aller. Le S, c'est pas forcément ROIste à court terme, en fait.
C'est vrai. Et c'est vrai que tu as raison, parce qu'on a réussi à intégrer, par exemple, dans la rémunération des dirigeants, des éléments sur les performances environnementale. Donc ça on a réussi
exactement.
À le mettre. Mais sur le volet S, c'est toujours un petit peu difficile parce que évidemment quoi.
On raisonne plus par quota que par on va dire récompense. C'est même pas récompense. Ce serait encore une fois du bon sens comme l'écologie. Mais bon.
Mais
on
c'est vrai,
on manque cruellement.
On se donne des
trajectoires.
Et là aussi, moi, je suis convaincue qu'une partie de la solution, elle vient juste de l'interne, en fait, de donner la parole aux collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a énormément fait ces dernières années. On a organisé des hackathons. On a vraiment donné la parole aux experts internes. Et pas que des experts. On a créé des groupes de travail complètement mixtes où il y avait des personnes où on se disait, toi, on te veut là-dedans parce que de toute façon, tu es un expert du verdissement de la flotte. Voilà. Et puis en face, on met des collaborateurs qui ont juste un regard citoyen sur le sujet parce qu'ils ont des bonnes idées, parce que dans leur ville, ils ont vu des choses sympas, parce que quelqu'un dans leur famille travaille. Enfin voilà, qui viennent apporter un regard uniquement citoyen, voire même un peu militant parfois, pour confronter l'avancée des experts sur le sujet et peut-être les aider à aller dans une direction ou une autre, prendre en compte des innovations qu'ils n'avaient pas en tête. Et ça, on le fait aussi en encourageant l'innovation en interne. Et ça, c'est aussi chouette parce qu'on a on a un Alliance Lab qui est en fait la possibilité pour les collaborateurs de passer plusieurs mois, 100% de leur temps à travailler, à monter une start-up interne sur un sujet dont on pense que ça peut révolutionner notre business, mais pas uniquement.
L'entrepreneuriat, du coup ?
C'est ça.
C'est génial,
exactement ça.
Ça.
Et donc là, on a déjà plusieurs startups qui ont été créées, donc c'est quand même vraiment chouette. Et puis sinon, on peut aussi tout simplement accélérer les startups. Donc on a un accélérateur de startups qui est logé dans notre stade à Nice, l'Alliance Riviera. Et là, on a déjà accéléré 50 startups sur des sujets qui ont tous quand même une dimension à impact.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est rare, sauf peut-être dans le digital et encore que, de ne pas intégrer cette dimension. En fait, parce que c'est des sujets qui vont devenir de plus en plus nécessaires.
C'est vrai, et du coup, lorsqu'on a des jurys, lorsqu'on assiste aux différents pitchs...
Tu es jury ?
Oui.
Ça, je l'ai vu dans ton regard, vous ne pouvez pas voir son regard, mais j'ai vu le jury.
Mais bien sûr, mais parce que c'est important de porter ces questions sur la RSE, savoir si ça a vraiment été intégré dès le départ dans le business, en fait.
Et puis s'il y croit, ça se sent, en fait, hein.
Oui, c'est vrai aussi. Mais parfois, c'est complètement intégré au business. Et puis parfois, dans les startups, c'est sûr qu'il n'y a pas la place pour une armée d'experts RSE toujours. Mais s'assurer que ce soit bien intégré dès le départ, la notion d'impact, tout simplement.
Exactement. De toute façon, je préfère le mot impact que RSE, tu es d'accord, non ?
Nous aussi, ouais. Parce que...
Je pense qu'on va tous arrêter avec ce terme RSE. Moi, j'aime bien le côté RSE, parce qu'il y avait S et E, mais en fait, personne n'y comprend rien. Moi,
en fait, S et E, ça nous aide à structurer, mais en réalité, ce qui fait bouger les foules, c'est plutôt les notions d'engagement et d'impact. Et c'est ça ce qui motive aujourd'hui les nouveaux collaborateurs quand ils viennent dans l'entreprise. Ils nous disent, comment je peux avoir un impact ? C'est quoi les vecteurs principaux ? Positif, oui, bien sûr. Et non, t'as complètement raison.
Ouais. Toi aussi, tu as complètement raison. Écoute, j'étais ravie d'écouter tout ça. Et puis, ça, moi, à chaque fois que j'entends, c'est vraiment la vocation du podcast, c'est d'écouter beaucoup de grands groupes aussi, parce que c'est vous qui allez pouvoir faire accélérer les choses, je pense. Et donc, bah, continuez. On ne peut que vous encourager à continuer comme ça.
Merci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces sujets, et là, pour le coup, c'est un vrai témoignage. Comme moi, j'ai commencé, on a recréé cette direction de la RSE il y a 6 ans maintenant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la RSE, c'est un quart du plan stratégique de l'entreprise. C'est énorme, en fait. C'est vraiment tous les grands objectifs à 2025.
Je pense que c'est même dans tous les corps de métier maintenant.
Ah mais bien sûr. En fait, c'est la vocation du plan stratégique, c'est-à-dire que c'est plus du tout une petite direction RSE exactement. Dans son coin, même si le coin en question, c'était la direction générale, donc quand même très bien placé pour avoir un impact rapide, voilà. Mais aujourd'hui, c'est entièrement différent de l'avoir vraiment intégré à tous les métiers, ce qui veut dire que dans l'ensemble de l'entreprise, on a des dizaines et dizaines d'experts qui ont dans leur feuille de route des objectifs à dimension RSE. Mais d'ailleurs, on n'appelle même plus RSE parce qu'on l'a déjà intégré aux différents métier.
En fait, on devient tous experts sur ces sujets-là.
Mais j'avais coutume de dire que finalement, le meilleur témoignage qui montrerait que l'équipe RSE a bien fait son boulot, c'est qu'elle finisse par disparaître, même si c'est un peu triste.
Mais ne disparaît pas, toi. Pas.
Non, mais c'est vrai, parce que c'est ce qui montre.
Il faut quelqu'un quand même pour piloter.
Oui, il faut quelqu'un pour piloter, pour coordonner, etc. Mais ce qui est intéressant, et là, moi, je vis ça dans mon entreprise, c'est le moment où, en fait, on se sent un petit peu dépossédé parce qu'en réalité, on l'a voulu. On a voulu responsabiliser chacun des acteurs. Et c'est vrai qu'il y a pu avoir une époque où on entendait des gens nous dire mais non, c'est comme ça que je fais mon boulot. Si jamais je devais intégrer ça et ça, il faudrait tout changer. J'ai pas le temps. Ça sera le jour où j'aurai le temps. Là, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Dans toutes les feuilles de route, ça fait partie des grands objectifs de l'année. Et on voit bien que ça a aidé beaucoup de personnes à repenser leur métier différemment et à les redynamiser.
C'est super. Merci beaucoup.
Merci à toi, Alice.
J'étais ravie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.